Bonjour pour votre invitation. Et c'est vrai que si je suis là cet après-midi, c'est grâce à vous, hein, c'est par votre invitation. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est avant tout grâce à Dieu. Le Seigneur nous a précédés en ce lieu, le Seigneur nous a conduits, nous a emmenés ici, nous a protégés jusqu'ici. Et j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, tous et toutes, avec un peu de soleil, avec un peu de pluie cette année, mais après tout, pour que les fleurs poussent, il faut de l'eau et il faut du soleil. Donc, mais c'est toujours bénéfique, un temps de repos pour justement se déstresser, décompresser, changer d'air et d'atmosphère et se ressourcer, faire le point sur certaines choses, le bilan. Se dire, ben tiens, voilà, c'est la rentrée, ouais, aujourd'hui c'est la rentrée, c'était la rentrée scolaire cette semaine. Là, c'est la rentrée pour la plupart des églises, au niveau des activités, voilà, tous les membres se retrouvent, même s'il y a encore des absents, mais comme disait Tan, tout le monde va être là, va être présent, va être motivé pour cette année encore, que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu, se retrouver, être ensemble, apprécier sa présence, mais apprécier aussi notre présence, se dire, mais le Seigneur est merveilleux parce qu'il nous a encore rassemblés aujourd'hui. Voilà pour l'introduction avant de passer au message. En quel Jésus as-tu cru? Voilà, et quand nous lisons, merci Hélène pour la lecture, le Seigneur va demander à ses disciples, mais en fait, en quel Jésus croyez-vous? Parce que derrière cette question, qui dit-on que je suis? Est-ce que vous croyez en moi? Et pourquoi est-ce que vous croyez en moi? Là, il est question éventuellement de réincarnation. Est-ce que Jésus serait la réincarnation d'autres prophètes? Est-ce que Jésus serait un autre prophète? Un nouveau prophète, comme il y en a déjà eu d'autres? Dieu a suscité des prophètes pour aller parler directement à son peuple. Son peuple au cou rebelle, au cœur rude, infidèle. Et le Seigneur a essayé, Dieu a essayé de rappeler son peuple à l'ordre, le remettre dans le bon et dans le droit chemin. Est-ce que croire en Dieu, c'est uniquement suivre l'exemple de Jésus? Est-ce que c'est être touché par tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit? Est-ce que nous avons cru, ou est-ce que nous croyons en Jésus l'homme ou en Jésus le divin? Et c'est la réflexion que j'aimerais mener avec vous ces deux dimanches, aujourd'hui et la semaine prochaine, Donc aujourd'hui, nous allons garder les pieds sur terre. Nous sommes à côté de Jésus. Nous allons voir le côté humain de Jésus. Qu'est-ce qu'il différenciait d'un prophète, d'un autre prophète? Au moment de la crucifixion, dans Jean au chapitre 19, au verset 25-27, on a affaire à un Jésus affectueux. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Là, on voit un homme, un fils, avec beaucoup de tendresse et de précaution pour sa maman. Mais on voit aussi Jésus comme un homme de douleur. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, les versets 21 et 24, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis le péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Mais ce qui nous intéresse, là, c'est que Jésus a souffert. Il a été battu, il a été maltraité, injurié, on lui a craché dessus. Jésus, homme de douleur. Mais Jésus, c'était aussi un homme juste, reconnu même par des tiers. Dans Luc 23, au verset 47, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, ce Jésus était juste. » Il a été question pendant la Seconde Guerre mondiale, là où les célébrations qu'il y a eu, comme quoi il y a eu des justes. Dans plusieurs pays, il y a eu des justes. C'était les personnes qui, au péril de leur vie, ont caché, protégé, nourri, transporté des Juifs. Ils avaient, quelque part, ils avaient pris la position d'héberger quasiment la mort chez eux, sachant ce qui arrivait aux Juifs, les justes. Faire ce qui est juste. Et Jésus faisait ce qui était juste. Et un autre point, Jésus aussi était un modèle. D'ailleurs, il dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Voilà, je suis un exemple à suivre. Puis on voit aussi un Jésus qui a soif. Dans Jean, chapitre 19, au verset 28, « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. » Jésus a eu soif. Et puis Jésus aussi s'est mis en colère. Souvenez-vous déjà dans Matthieu, quand il harangue les pharisiens et les scribes en disant « Malheur à vous pour telle et telle et telle et telle et telle et telle chose, pour vos actions, pour vos mauvaises pensées. » Dans Matthieu, chapitre 21, Jésus, il est raconté l'histoire de Jésus qui entre dans le temple. Et là, le temple, c'est comme si on avait ouvert les portes tout à l'heure et qu'aurions-nous vu ? Et des marchands de fruits, légumes, de viande, de tout ce que vous voulez, du commerce. Et là, Jésus, il s'est mis en colère. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Ménage, comme on dit, mais un ménage musclé. C'est vrai que souvent on se dit, mais Jésus, c'est un homme tellement doux. Oui, certes, mais quelqu'un qui savait aussi se mettre en colère. Et puis Jésus a pleuré. Des larmes ont coulé de ses yeux. Jean, chapitre 11, verset 34-36, c'était au sujet de Lazare. Et il leur dit, où avez-vous mis Lazare ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et là, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, vous voyez comme il l'aimait. Donc nous voyons là, nous avons déjà vu 8 aspects de la vie de cet homme, Jésus. Je dis bien Jésus homme. Nous avons lu Jésus l'exemple à suivre, suivre ses traces. Et Jésus aussi a manifesté de la fatigue. Ah, on a l'impression que c'était un surhomme. Ne dormons jamais, ne mangeons jamais, toujours présent, toujours actif, toujours debout. Ben non, Jésus aussi a été fatigué. Jean chapitre 4, verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure et il devait faire chaud. Et à l'époque, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de... Ils allaient à pied, en sandales, dans les chemins de pierre et de poussière. Et puis c'était long pour aller d'une ville dans une autre. Puis on a l'impression que voilà, Jésus, rien ne peut lui arriver. Eh bien non, Jésus a été fatigué. Il était couvert aussi de poussière, en sueur. Et puis nous voyons aussi que Jésus a dormi. Matthieu 8, verset 24, vous vous souvenez, c'est l'histoire de la tempête apaisée. Hein, Jésus quitte la foule, il part avec ses disciples. Allez, traversons. Et Jésus se met à l'intérieur du bateau, tranquillement, et il dort. Légitime. Un homme a le droit de dormir. Bon, vous connaissez l'histoire, la tempête s'est levée, mais Jésus continue à dormir. Je pense qu'il devait être très fatigué. Nous, quand on est... En tout cas, moi, quand je suis très fatigué et que je prends sommeil, vous pouvez jouer de la trompette à côté, hein. Quand nous sommes bien fatigués, et il faut du temps pour percevoir ce qui se passe autour de soi. Donc, Jésus a dormi. Mais Jésus aussi, c'était un homme généreux. Dans Matthieu, chapitre 15, les versets 32 à 37, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Donc déjà, il a un sentiment humain très fort de pitié, de tendresse. Et il dit, mais regardez cette foule, ça fait 3 jours qu'elle est avec moi. Et ils n'ont rien mangé. Je ne peux pas les renvoyer, dit Jésus. Je ne peux pas. Ce serait inhumain. De peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ? Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» Ils le savaient très bien. Mais là, on parle de l'homme. Jésus demande, « Combien avez-vous de pain ?»« 7, répondirent-ils, « et quelques petits poissons. » Donc j'imagine les 7 pains alignés ou dans un panier, puis les quelques petits poissons, vous imaginez là, posés sur la table. Et puis vous levez les yeux, et puis vous voyez des milliers de personnes. C'est pas gagné hein, pour nourrir les gens. C'est pas gagné du tout. Alors il fit asseoir la foule par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, et vous connaissez la suite. Avant tout, ce que l'on veut développer aujourd'hui, c'est les actions humaines de Jésus, les pensées humaines de Jésus. Puis Jésus, donc, tout à l'heure, nous avons vu qu'il a été, c'était un homme de douleur. Et là, nous avons un exemple dans Marc 15. Jésus, ça a été un homme battu. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. J'ose même pas imaginer cette couronne d'épines, parce que moi j'ai des rosiers à la maison, enfin en tout cas dans mon jardin. Quand je dois les tailler, aïe 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 aïe, des petites épines comme ça, comment ça fait mal. Quand ça vous griffe, quand ça vous pique, et encore c'est sur la main, c'est sur les bras. Mais alors imaginez une couronne d'épines, et c'était pas des épines de rosier, hein, sur la tête. Jésus a dû souffrir, il a dû avoir mal. Ils posèrent sur sa tête une couronne d'épines. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau. Alors non seulement il a une couronne d'épines, et en plus on lui donne des coups de roseau pour bien faire rentrer les épines dans la peau. Ils se sont moqués de lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils le forcèrent à porter sa croix. Puis quelqu'un d'autre a dû porter sa croix parce que Jésus n'en pouvait plus. Il était trop faible. Il avait trop mal. Ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Et puis là, ils l'ont percé. Ils lui ont percé les mains, ils lui ont percé les pieds, comme les deux brigands qui étaient à côté. Je n'ose pas imaginer la douleur que ça devait représenter. Et je ne peux pas imaginer Jésus ne sentant pas la douleur. Donc là, nous voyons que Jésus, c'est un homme crucifié, comme un brigand. Là, on est loin du prophète. Hein, qui dit-on que je suis? Un prophète? Mais le peuple avait l'habitude de maltraiter les prophètes envoyés par Dieu. Jésus ne fait pas exception à la règle. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Bien sûr, c'était pour se moquer. Qui aurait pu croire qu'on allait crucifier le roi des Juifs comme ça, de cette manière-là, de cette manière infâme? On ne l'a pas lapidé, Jésus, on l'a crucifié. C'était beaucoup plus spectaculaire. C'était beaucoup plus lent. La personne qui était crucifiée souffrait plus longtemps qu'une personne qui était lapidée. C'était une infamie de mourir sur un bois en forme de croix. Et en plus sur la place publique. On ne les laissait pas mourir en prison. Et enfin, qu'est-ce que l'on voit? Un homme mort. Marc 15, 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Voilà, nous avons vu cet homme traverser pendant quelques années de vie de ses contemporains. Il a montré tout un tas d'aspects, des aspects humains, des aspects physiques liés proprement au corps, des aspects liés à la parole, au regard, à la façon d'être. Et puis, on voit Jésus accusé, condamné, battu, crucifié et mort. Et l'histoire, elle se continue dans Matthieu 28, au verset 11 à 16. Ils sont importants, ces versets-là, parce que pendant qu'elles étaient en chemin, hein, les femmes qui sont allées voir au sépulcre, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, ceux qui avaient gardé le tombeau, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. La pierre roulée, le corps disparu. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites À qui voudra l'entendre? Ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Il ne vous arrivera rien, parce que là, vous allez mentir. Parce qu'en fait, ils savent très bien que ce n'est pas ce qui est arrivé. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ce faux témoignage sur ce qui s'est passé une fois la mise au tombeau faite de Jésus a perturbé, a détourné de leur conscience beaucoup de ses contemporains de l'époque en disant, mais tout compte fait, en qui dites-vous que je suis, en qui, en quel Jésus j'ai cru? J'avais cru en cet homme-là. Je pensais que c'était le renouveau du peuple, le sauveur du peuple, le vrai roi des Juifs. Déjà celui qui nous débarrasserait de tous ces vauriens de Romains qui sont venus sur notre terre, nous voler notre terre, et puis voilà. Et puis là on nous dit qu'en fait, il est mort comme un autre. Et même pire qu'un autre parce qu'il est mort crucifié. On l'a mis dans un tombeau comme un autre. Et puis, quelqu'un a emmené son corps et on ne sait pas où est-ce qu'il est parti pour le cacher. Certaines autres personnes, bien sûr, ses disciples, tout ça, savaient ce qui s'était passé. Puis Jésus s'est manifesté. Alors, certains traits de caractère de Jésus peuvent nous pousser à essayer de reproduire cela. Suivre les traces de Jésus, comme tout à l'heure nous avons lu dans la Bible. C'est vrai que nous pouvons vouloir nous identifier à Jésus. Un homme si parfait. Même si des fois il y a quelques traits de caractère de Jésus qui peuvent, comme le coup de la colère. Mais un homme si parfait. Un homme qui a même lavé les pieds de ses disciples, vous vous rendez compte? Perfection que l'on pourrait s'imposer. Je veux être comme Jésus. Et que je pourrais aussi vouloir imposer aux autres. Pourquoi toi t'es pas comme Jésus? Mais alors là, il y a risque de se tromper de cible, de but. Et en fait, ça revient à idolâtrer Jésus. Jésus devient une idole. Moi, j'aimerais bien faire comme Jésus, cet homme bon, qui a enseigné la foule, qui a aimé les gens, quelles que soient leurs conditions, leur situation, n'ayant pas peur de braver l'injustice en pleine lumière. Mais est-ce que l'on peut imiter Jésus? Est-ce que même de leur époque, quelqu'un a pu imiter Jésus? Peut-être est-ce qu'on peut imiter à un moment donné un trait de son caractère, mais tous les traits de caractère de Jésus, est-ce que nous les avons déjà en nous? C'est la question qu'il faut se poser. Nous ne les avons pas en nous. Nous ne pouvons pas les reproduire comme Jésus les a reproduits. Alors ça peut être une frustration, ça peut être un grave sentiment d'échec. Ben voilà, j'ai lu l'histoire de Jésus dans la Bible, mais j'y arrive pas. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, mais j'arrive pas à suivre ce chemin. Mais il est dit aussi de Jésus, là où le premier Adam a failli, il a réussi. Ce deuxième homme, va-t-on dire, va réussir le plan de Dieu pour l'humanité. Il devient un modèle en toute chose par sa vie d'homme. Dieu a montré par Jésus quel était le caractère de Dieu. Il nous a montré au travers, Dieu nous a montré au travers de Jésus qu'il était proche de nous. Qu'il savait de quoi nous étions faits, ce qu'il y avait réellement à l'intérieur, tout au fond, les trucs cachés qu'on ne sait pas, qu'on ne veut pas. pas que ça se sache. Jésus a montré tous les traits de caractère de l'être humain. Hein, la fatigue, la souffrance, les larmes, l'émotion, la pitié. C'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. Jésus, homme, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. En lui, Dieu a voulu donner à l'humanité une référence témoin absolue et parfaite. C'est ce qui lui vaut le titre de second Adam. Avec le premier Adam, ça n'a pas marché. Avec le second Adam, ça a marché. Avec le premier Adam, les portes se sont fermées, les portes du jardin d'Éden se sont fermées. Avec le second Adam, Jésus, les portes du paradis se sont ouvertes. Alors, mes bien-aimés, en quel Jésus as-tu cru? Est-ce que ce qui nous a fait dire que nous croyons en Dieu, c'est parce que nous avons eu pitié de Jésus, envie de Jésus, vouloir l'imiter, hein, quand je dis envie de Jésus, vouloir l'imiter, envie de faire aussi bien que lui, vouloir s'approprier sa nature humaine. Et là, nous avons les pieds sur terre. Et si on en reste là, si c'est cela notre leitmotiv, si c'est en ça que nous avons cru, je ne dis pas que nous nous sommes foncièrement trompés, mais il nous manque une dimension. Il nous manque la troisième dimension. Il nous manque la dimension divine. Il nous manque de voir au travers de Jésus, Dieu. Et c'est ce que nous verrons ensemble la semaine prochaine. Voilà. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et surtout qu'il puisse nous faire réfléchir sur en quel Jésus j'ai cru.